conférence privée par le père Philippe Saint-Joseph, le 5 décembre 84.
N'oubliez pas, je n'en ai pas parlé hier au chapitre, mais n'oubliez pas la prise d'habit hein, de nos sœurs oblates, qui aura lieu donc le 7 au soir. Comme ça, c'est les premières vêpres du 8. Et puis je reviendrai le 8 au matin ici. Mais ça aura lieu le 7, et puis je repartirai sur Paris, après par le, sur Lyon. Alors il y a Sœur Geneviève, que je crois que vous connaissez tous. Alors, elles ont choisi elles-mêmes leur habit, hein, donc... Au point de vue esthétique, ne me dites rien pour moi. C'est elle qui en toutes les... Sœur Geneviève, sœur Anne-Marie, qui va donc changer d'habit. Pas parce qu'elle passe d'une religion à une autre, mais elle passe d'ici à là-bas. Sœur Mélisse qui fera la même chose. Sœur Christine. Sœur Francisca, vous la verrez. Sœur Maria, sœur Isabelle de Chantérac, parce qu'il y a trois Isabelles, il faut bien la nommer par son nom. Elles sont une petite communauté, de, je vous l'ai dit l'autre jour, elles sont presque 18, je crois 17 ou 18. Et celles-là, c'est celles qui prennent l'habit, qui ont été l'année dernière, qui étaient là, donc il y a déjà un an. Parmi celles-là, certaines feront le jour même. Monseigneur le bourgeois est tout à fait d'accord. Leur profession. Il faut bien, pour qu'une communauté existe, il ne faut pas qu'il y ait des novices. Alors, quand il y en a de profs, on fait que les novices fassent tout de suite profession. Alors, il y aura Sœur Geneviève, Sœur Anne-Marie, qui elle avait déjà fait profession d'une autre manière, sœur Christine et sœur Maria. Maria, c'est la petite canadienne, hein, si vous voyez. Vous voyez bien, c'est qui. Alors, priez pour elle. Hein. Ce sont nos sœurs oblates apostoliques. Alors, on verra comment la Providence fait. Point de vue apostolique, il n'y a rien de précis. Rien de précis. Monseigneur le bourgeois a demandé qu'est-ce qu'il y a de... Alors elles ont dit non, c'est un petit peu pour, comme la communauté de Saint-Jean, il n'y a rien de très précis exprès pour que ça puisse se prendre des orientations diverses. Et je crois qu'en effet, elles auront un rôle complémentaire par rapport à la communauté. Le rôle complémentaire le plus caché, ce sont nos sœurs contemplatives, c'est sûr. Mais les autres auront aussi un rôle complémentaire au point de vue vie apostolique. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Si vous avez des questions, il faut les poser. À propos du mystère de la compassion, si le mystère de l'Eucharistie perpétue le mystère de la croix, peut-on dire que les fidèles, dans leur sacerdoce mystique, vivent une compassion théologale, sacramentelle et eucharistique. Alors, comprenons bien. Le mystère de l'Eucharistie nous est donné pour que nous vivions du mystère de la croix. Et c'est vrai, le mystère de l'Eucharistie nous est donné pour cela. Il est au centre de toute notre vie sacramentelle, et nous devons vivre du mystère de l'Eucharistie en vivant du mystère de la croix. C'est la croix pour nous, je ne dis pas comme si nous assistions à la messe, comme si nous assistions à la croix, c'est beaucoup plus. C'est substantiellement, pour le croyant, le mystère de la croix. Sous ce mode particulier qui est le mode sacramentel. Bon, on n'arrivera jamais à comprendre, hein. C'est un mystère. Mais nous devons essayer de préciser ce que représente ce mystère et les intentions du Christ fondant l'Eucharistie. Tout le temps revenir à cela. C'est en ce sens-là que le lavement des pieds est quelque chose de si important pour nous. Parce qu'il nous livre un peu les intentions de Jésus. Il veut que les apôtres reçoivent ce mystère de son testament d'amour de la manière la plus profonde qu'il soit. Donc, le mystère de l'Eucharistie nous donne le mystère de la croix. Le mystère de la croix, si nous voulons le vivre en tant que fidèles, de la manière la plus forte qui soit, la plus divine qui soit, c'est de le vivre avec Marie. C'est sûr. Quelle est la créature qui a le mieux vécu de la croix? C'est Marie. De sorte que nous devons vivre du mystère de la croix auprès de Marie et vivons son mystère de compassion dans la foi, l'espérance et l'amour. Le sponsabo in fide, le sponsabo in misericordia, le sponsabo in justitia du prophète Osée. Je t'épouserai dans la fidélité, je t'épouserai dans la miséricorde, je t'épouserai dans la justice. Ces trois modalités de l'alliance de Marie avec Jésus à la croix qui nous font entrer dans le mystère de la compassion. Le mystère de la compassion, c'est Marie qui achève ce qui manque à la passion du Christ. Il ne faut jamais l'oublier. C'est saint Paul qui nous dit qu'il achève ce qui manque à la passion du Christ. Donc, si saint Paul le dit, Marie peut le dire, ou nous pouvons le dire pour elle. Alors, il faut bien comprendre ce que ça veut dire quand on dit qu'on complète. Il ne manque rien à la passion du Christ. Elle a une valeur infinie, parce qu'elle procède de la plénitude de charité, de la plénitude de grâce du Christ. Si donc elle procède de la plénitude de grâce du Christ, la plénitude de son amour, on ne peut rien ajouter. La grâce du Christ est une grâce capitale. Et tout ce qui provient directement de la grâce capitale du Christ est quelque chose d'absolu. Et donc le mystère de la croix, qui est le fruit de sa grâce capitale, qu'il accomplit en obéissance au Père, donc en se mettant dans une attitude d'obéissance, d'instrument du Père, l'œuvre de la croix est parfaite au point de vue de l'amour. Elle est infinie au point de vue de la satisfaction, au point de vue de la réparation, et elle est infinie au point de vue de l'alliance que Jésus réalise avec le Père. C'est l'alliance dans le cœur du Fils bien-aimé. C'est donc une alliance qui n'a pas de limite au point de vue de l'amour. On ne peut donc rien ajouter au mystère de l'intensité de l'amour dans le cœur de Jésus. Mais on peut comprendre que le mystère de la croix s'étend. C'est du côté de l'extension, pas du côté de l'intensité. C'est du côté de l'extension que nous pouvons parler d'une complémentarité. Comment le mystère de la croix va s'étendre dans le cœur de Marie. Et c'est de cette manière-là, je crois, que nous devons comprendre le mystère de la compassion. Alors, il s'agit de bien le comprendre, parce que c'est quand même le grand mystère auquel nous devons tout le temps revenir. C'est saint Jean qui nous révèle ce mystère. Donc c'est un peu réservé à nos petites sœurs contemplatives. C'est pour ça que dans la règle aux contemplatives, on a ajouté quelques petits paragraphes sur le mystère de la compassion pour bien indiquer que c'est leur mystère avant tout. Mais c'est aussi notre mystère. C'est le mystère que nous devons vivre si nous voulons être de vrais apôtres. Il faut d'abord vivre du mystère de la compassion. Il faut d'abord entrer dans le mystère de la compassion et vivre ce mystère de la compassion à la manière de Marie, tout près de Marie. Alors, il s'agit de bien comprendre la complémentarité du mystère de la compassion par rapport au mystère de la croix. On peut la comprendre de deux manières, puisque le mystère de la croix implique un mystère victimal et un mystère sacerdotal. Jésus est en même temps prêtre et victime. Si Jésus est en même temps prêtre et victime, on peut comprendre la complémentarité de Marie du côté de l'état victimal du Christ et du côté sacerdotal. Et je crois que c'est de ces deux manières-là qu'on doit essayer de le comprendre. Il me semble bien. Je dis ça, c'est parce que je ne l'ai pas vu beaucoup développé comme ça, et c'est, pourtant ça me semble nécessaire. Si on veut analyser au point de vue théologique, si on veut entrer vraiment au point de vue théologique et de théologie mystique dans le mystère de la compassion, il faut voir ces deux aspects. Alors, du côté victimal, c'est assez facile de comprendre la complémentarité. Parce que Jésus est victime d'amour. Est victime d'amour d'une manière, au point de vue intensité, parfaite. Mais du côté de l'extension, certaines parties de l'intelligence et de la volonté du Christ ne peuvent pas faire partie de cet état victimal. Je parle de l'intelligence du Christ, son intelligence humaine, surnaturalisée par sa plénitude de grâce, donc transformée par sa grâce et sa charité. Et je dis bien que les sommets de l'intelligence et les profondeurs du cœur de Jésus ne peuvent pas faire partie de cet état victimal. Parce que, dans la grande perspective des pères de l'Église et de saint Thomas, et cette perspective a duré jusqu'au XIXe siècle, ce n'est que tout à fait récemment où les théologiens ont essayé. Avant, c'était de temps en temps, mais c'était très très rare. Je n'ai pas vérifié combien il y avait de théologiens qui avaient dit ça avant. Mais comme toutes les erreurs ont été soutenues par les théologiens, on peut toujours dire ça. Mais c'était très très rare. Ce qui est quelque chose de nouveau, c'est que les théologiens d'aujourd'hui le disent très souvent, de sorte que ce que je vous dis ici, j'y crois profondément, moi, parce que je crois que saint Thomas avait une vision beaucoup plus profonde sur le mystère du Christ à la suite de tous les pères de l'Église que ce que nos jeunes théologiens d'aujourd'hui, n'est-ce pas, comme on parle des jeunes philosophes, des jeunes théologiens d'aujourd'hui peuvent dire. J'attends 1000 ans avant de savoir si ce sera accepté par l'Église, hein. Mais pour le moment, c'est une opinion théologique. Alors, la grande vision de saint Thomas, c'est celle-ci, elle est très belle. C'est que la grâce du Christ est une grâce plénière. Pourquoi ? Parce que sa grâce habituelle, sa grâce sanctifiante, procède du mystère de l'union hypostatique. C'est-à-dire du Verbe de Dieu assumant sa nature humaine. Et à cause de ce mystère de l'union hypostatique, Jésus a une plénitude de grâce. Parce qu'il est tout proche de la source, comme dit saint Thomas. Il ne peut pas être plus proche de la source qu'il n'est. Puisqu'il est uni personnellement, l'union hypostatique, ça veut dire ça, il est uni personnellement au Verbe de Dieu. Et le Verbe de Dieu ne fait qu'un avec le Père et l'Esprit Saint, et est la source propre de la grâce. Et donc, grâce au mystère de l'union hypostatique, il y a une plénitude de grâce dans l'âme humaine de Jésus. Et cette plénitude de grâce, parce qu'elle est une plénitude de grâce qui atteint le sommet que la grâce peut atteindre, nécessairement, dit saint Thomas, implique la vision béatifique. Si cette plénitude de grâce n'atteignait pas la vision béatifique, Jésus aurait la foi, l'espérance, comme nous, et il pourrait grandir en charité. Or, il semble bien que c'est contradictoire par rapport au mystère de l'union hypostatique. De sorte que nous pouvons affirmer, à la suite de saint Thomas, et en prenant les arguments de saint Thomas, que les sommets de l'âme du Christ, de l'âme humaine de Jésus, que ces sommets de son intelligence et de son cœur ont tout de suite connu la vision béatifique. Tout de suite, dès le premier moment de la conception. Psychologiquement, ne cherchez pas à comprendre. C'est impossible à comprendre. Mais métaphysiquement, ce n'est pas impossible. Mais dès le premier instant de sa conception, Jésus, dans les sommets, parce que dès le premier instant de sa conception, il y avait une âme humaine, et il y avait une plénitude de grâce. Et donc, dès le premier instant de sa conception, il y avait dans l'âme du Christ la vision béatifique. Quand Jésus était porté par Marie, il continuait, il voyait le Père dans un face-à-face. Et il voyait l'Esprit-Saint dans un face-à-face. Donc les sommets de l'âme du Christ étaient dans la vision béatifique. Par le fait même, il ne pouvait pas connaître un état victimal. Alors, c'est la grande distinction que saint Augustin fait entre la ratio supérieure et la ratio inférieure. C'est très bien ces mots, mais ça ne dit pas grand-chose, hein, quand on ne sait pas exactement. Mais on voit ce que saint Augustin veut dire. Il faut toujours distinguer dans le Christ qui voit le Père dans les sommets de son intelligence, et le Christ qui, avec nous, est viator. Avec nous, il est pèlerin. Avec nous, il chemine sur la terre. Alors, comprenez, les sommets de l'âme du Christ sont dans la vision béatifique. Et donc, les sommets de son âme humaine ne font pas partie de l'état victimal du Christ. Pour que l'âme humaine soit totalement offerte en état victimal, il fallait donc que Jésus, que le Père, demande à Marie de vivre le mystère de la croix en épouse. Le propre de l'épouse, c'est de vivre ce que l'époux vit selon sa modalité propre. C'est pas une répétition, c'est selon une modalité propre. Marie va vivre le mystère de la croix selon une modalité qui lui est propre. Et cette modalité qui lui est propre, c'est justement d'être dans la foi, d'être dans l'espérance et dans la charité. La grâce de Marie, qui au point de départ, à cause du mystère de l'Immaculée Conception, et dans une plénitude absolue. Dès le premier instant de sa conception, Marie a eu une plénitude de grâce, mais pas la même que celle de Jésus, puisqu'elle venait de celle de Jésus. Même si Jésus n'était pas encore né, sa grâce provenait des mérites du Christ crucifié. Il ne faut pas l'oublier pour le mystère de l'Immaculée Conception. Le mystère de l'Immaculée Conception est une grâce chrétienne. et donc qui a été donné à Marie en vertu des mérites du Christ crucifié, en devançant le mystère de la croix. C'est très beau, tu vois, ça. Et la grâce de Marie est une grâce chrétienne. Donc, cette plénitude de grâce unit Marie à Jésus et n'est pas du tout une grâce de justice originelle qui fait que Marie serait retournée au paradis terrestre. Elle a beaucoup mieux. Son paradis, ce sera le cœur de Jésus. Et ce ne sera pas du tout le paradis terrestre. La plénitude de grâce de Marie, donc, est une plénitude de grâce qui peut croître. Et c'est pour ça que Marie, dans sa plénitude de grâce, a la foi et l'espérance, parce qu'elle est une pure créature. Tandis que Jésus, il est fils de Dieu. Si Marie vit le mystère de la croix dans sa foi, dans son espérance et sa charité, elle peut donc offrir à Dieu, dans un holocauste d'amour, les sommets de son intelligence et les sommets de sa volonté. Parce que c'est le propre du mystère de la foi. C'est de nous permettre d'offrir notre intelligence à Dieu. Par la foi, mon intelligence peut être offerte à Dieu. Autrement, ce serait très difficile. On ne pourrait pas l'offrir dans sa totalité. On pourrait offrir tous les exercices de notre intelligence à Dieu. Mais on ne pourrait pas offrir la capacité de notre intelligence, sa puissance. Mais la foi enveloppe notre intelligence. Elle est reçue dans l'intelligence, mais comme elle est une lumière divine, elle l'enveloppe. Notre intelligence est portée par la foi. Et la foi est portée par l'intelligence. Il faut dire les deux. Toujours. Autrement, on retombe dans quelque chose qui ne va plus. C'est justement le propre du mystère de la grâce. C'est que la grâce enveloppe la nature. Parce qu'elle est d'ordre divin. Donc elle va beaucoup plus loin que l'ordre naturel. Et donc, Marie peut vivre le mystère de la croix dans sa foi, dans son espérance et son amour. Et vivant le mystère de la croix dans sa foi, elle peut offrir au Père et à Jésus les sommets de son intelligence humaine. Et comme son offrande est toute unie à celle de Jésus, nous comprenons comment elle complète, elle achève ce qui manque à l'holocauste du Christ. Ce qui manque à l'holocauste du Christ, c'est ce qui ne peut pas être offert dans le Christ, mais qui peut être offert par la médiation de Marie. Et c'est là où on comprend comment Marie est vraiment épouse. Parce qu'elle vient apporter quelque chose d'unique que Jésus ne pouvait pas vivre. Jésus le vit en elle et par elle. C'est par elle que Jésus vit de l'offrande plénière et totale de ce qui est plus profond dans l'intelligence humaine. Parce que Marie est dans la foi. Et que la foi de Marie à la croix a un mode héroïque. Et c'est vrai, quand on pense un instant à la foi de la très sainte Vierge à la croix, on voit bien que cette foi est une foi contemplative héroïque. Marie vivait de ce que l'ange lui avait dit quand elle est debout auprès de la croix. Elle vit et elle garde dans son cœur les paroles de l'ange. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob. Et c'est vrai, Marie garde ses paroles dans son cœur. Or, la réalité, ne semble pas du tout réaliser la promesse. Il est rejeté de la maison de Jacob. Il est rejeté comme un blasphémateur. Et Marie garde les paroles de l'ange sans les modifier. Et Marie regarde ce qui se passe à la croix. Il semblerait qu'il y ait une espèce de contradiction entre la prophétie de l'ange Gabriel et la réalisation concrète à la croix. En réalité, il n'y a pas de contradiction. Il y a deux points de vue différents. D'un côté, c'est le grand mystère de la gloire. Et de l'autre, c'est la porte étroite de la croix. Et dans sa foi, Marie vit cette porte étroite qui est la croix, Jésus. Et dans son espérance, Marie vit en sachant qu'un jour il sera glorifié. Et à ce moment-là, il régnera éternellement sur la maison de Jacob. La prophétie douloureuse et la prophétie glorieuse, si on les oppose l'une à l'autre, nous empêchent d'adhérer à la parole de Dieu. Il faut dépasser cette apparence d'opposition et de contradiction pour découvrir le mystère même de la parole de Dieu, pour découvrir le mystère de Jésus crucifié. Marie donc, vivant le mystère de la compassion dans sa foi, comme épouse, sponsabo, in fide, donc vivant le mystère de la croix dans sa foi, Marie complète ce qui manque à l'état victimal de Jésus. Elle ne verse pas une seule goutte de sang. Tout l'holocauste de Marie est intérieur. Tout l'holocauste de Marie se passe au plus intime de son âme. C'est elle-même qui s'offre. Et en s'offrant, elle offre son intelligence. Pour glorifier le Père, pour glorifier Jésus et nous sauver. Je crois que nous pouvons dire la même chose du côté du sacerdoce de Jésus. C'est plus délicat, mais je crois que c'est aussi très important. Vous voyez, Vatican II nous demande d'être très attentifs à bien préciser ce que représente le sacerdoce sacramentel et le sacerdoce mystique des fidèles. Marie n'a jamais reçu le sacerdoce sacramentel. Je crois qu'elle n'y a jamais pensé. Parce qu'elle ne pensait pas à des choses impossibles. C'est les propagandes qui vous font croire que. Mais Marie n'y pensait pas. Elle était tellement heureuse de tout donner dans l'amour. Mais Marie, à la croix, on peut dire, a complété ce qui manque au sacerdoce de Jésus. Il y a une complémentarité qui va jusque-là. Marie a une grâce, une plénitude de grâce qui vient de celle de Jésus crucifié. Or, le propre de la grâce du Christ, c'est justement d'être une grâce sacerdotale. C'est dit dans l'Apocalypse, l'Église est un royaume de prêtres. C'est-à-dire que nous sommes tous unis au sacerdoce du Christ. Il y a la plénitude de grâce du Christ. Et par notre grâce sanctifiante qui est à l'origine de la foi, de l'espérance et de l'amour, Par notre grâce sanctifiante, nous sommes liés au sacerdoce de Jésus. Nous vivons mystiquement le sacerdoce du Christ. Et c'est bien ce que Marie avait vécu. Elle l'a vécu pleinement. Et c'est du côté de son sacerdoce mystique que nous pouvons dire qu'elle complète et achève le mystère du sacerdoce du Christ. Il ne manque rien au sacerdoce du Christ, du côté de sa capacité de don et d'amour. Mais le sacerdoce du Christ peut connaître une nouvelle extension. Et c'est de ce côté-là que nous devons comprendre comment Marie va achever et compléter le sacerdoce du Christ. Vous voyez ? Et cela nous met tout de suite la très grande différence entre le point de vue du sacerdoce mystique des fidèles. Mystique des fidèles et le sacerdoce sacramentel. Le sacerdoce sacramentel ne fait pas nombre avec le sacerdoce du Christ, puisque le prêtre agit in persona Christi quand il consacre. Donc le sacerdoce sacramentel est directement en dépendance du sacerdoce du Christ. Il ne fait pas nombre avec le sacerdoce du Christ. Donc, il n'ajoute rien au sacerdoce du Christ. Il l'étend à travers tous les temps et les lieux, selon un mode sacramentel, qui n'est pas la grâce sanctifiante, qui est un pouvoir, une capacité particulière qui permet au prêtre d'agir in persona Christi. Pour consacrer et pour pardonner et pour ordonner quand il s'agit de l'évêque. Tandis que la grâce sanctifiante qui vient du Christ, cette grâce est liée à celle de Jésus, et étend le mystère du Christ à travers tout le corps mystique. C'est pour ça que je peux dire que Marie, au pied de la croix, achève l'œuvre du prêtre unique qui est Jésus. Elle l'achève en ce sens que c'est elle qui devra offrir au Père l'état cadavérique du Christ. C'est elle qui devra offrir au Père la blessure du cœur. La blessure du cœur de Jésus, la blessure du cœur cadavérique du Christ est comme réservée à Marie. C'est pour elle. Et c'est pour qu'elle l'offre au Père. Il y a comme une matière particulière qui est comme réservée à Marie. Jésus l'a offert virtuellement avant, intentionnellement, mais Marie l'offre de facto. Cette blessure, elle existe. Jésus ne peut plus l'offrir avec son sacerdoce, puisque il y a une séparation de l'âme et du corps et que le sacerdoce du Christ est dans son âme. Il faut donc que ce soit Marie qui, dans sa grâce et sa plénitude de grâce et sa grâce de mère, offre au Père cet ultime moment de l'offrande du Christ. Il faut que ce soit Marie, qui, dans une surabondance d'amour, offre au Père l'Holocauste, ultime, cet état cadavérique de Jésus, la blessure du cœur, les dernières gouttes d'eau et de sang. C'est assez impressionnant du reste, parce que ça doit nous jeter une très grande lumière sur ce que représente le sacerdoce royal des fidèles, le sacerdoce mystique des fidèles. Si le prêtre, dans son pouvoir ministériel, continue les gestes du Christ, les fidèles, unis à Marie, achèvent le mystère du sacerdoce du Christ. Auprès de ceux qui étant comme séparés, ont besoin de Marie. Il y a un rôle d'intercession de Marie qui, d'une certaine manière, vous voyez, dépasse la hiérarchie. Ça ne dépasse pas le sacerdoce du Christ, puisque tout vient du sacerdoce du Christ, mais la hiérarchie. Ceux que la hiérarchie ne peuvent pas atteindre, Marie, dans sa maternité, les enveloppe d'amour. Et notre prière d'intercession, qui est toujours liée à l'intercession de la Très Sainte Vierge, qui est toujours liée à son sacerdoce royal, doit aussi atteindre ceux qui sont comme morts, qui sont comme dans un état cadavérique par rapport à la hiérarchie. Et Marie les enveloppe de son amour et de sa tendresse. Marie a connu à la croix quelque chose de très mystérieux, et jusqu'à la fin de sa vie du reste, hein, parce que ça fait partie de son mystère de femme, de médiatrice. Elle est liée au sacerdoce de Jésus d'une façon telle qu'elle fait la même œuvre que Jésus. Et elle fait la même œuvre que Jésus en étendant l'œuvre de Jésus. Et donc il y a quelque chose dans le sacerdoce royal des fidèles, par Marie et en elle, qui achève et complète le sacerdoce de Jésus. Ce sacerdoce vient du Christ, mais il a comme une étendue, une extension plus grande, par Marie et par tous ceux qui sont liés à Marie d'une façon ou d'une autre. De sorte que vous voyez, quand il s'agit du mystère de la compassion, il faut comprendre que lorsque nous vivons du sacrifice de la croix, lorsque nous vivons du mystère de la messe, nous sommes unis à la croix directement. Et nous sommes donc unis à la croix de la manière la plus profonde qui soit, c'est d'être unis par Marie, avec elle et en elle. Marie ne nous est pas donnée sacramentellement, c'est le corps du Christ qui est donné sacramentellement. Mais parce que le corps du Christ donné sacramentellement est donné réellement, Marie nécessairement est là. C'est impossible autrement. Et elle nous apprend à vivre de l'offrande de la croix comme elle en a elle-même vécu. Elle nous apprend à vivre de l'essentiel du mystère de l'Eucharistie. Jésus s'offre au Père. Il offre sa vie. Il offre son âme. Si nous sommes unis à lui, en vivant le mystère de l'Eucharistie, nous offrons notre vie, nous offrons notre âme avec Marie, avec Jésus, pour glorifier le Père et sauver les hommes. Et c'est ça qu'il y a de si grand dans ce sacrement de l'Eucharistie. Parce qu'il nous fait entrer dans le mystère de la croix Et dès que nous entrons dans le mystère de la croix implique le mystère de Marie, le mystère de la compassion. Donc vous voyez comment nous pouvons entrer dans ce mystère de la compassion par le mystère de l'Eucharistie. Pas immédiatement, ne dites pas en recevant la chair du Christ, je reçois la chair de Marie. Non, c'est pas vrai. Alors, il ne s'agit pas de dire des choses qui sont erronées. C'est pas vrai. On reçoit la chair du Christ. Mais c'est vrai qu'en étant uni à Jésus par le mystère de l'Eucharistie, on est uni à sa croix. Et si on est uni à sa croix et qu'on veut vivre du mystère de sa croix, on sait que c'est Marie qui en a vécu de la manière la plus intense et la plus profonde. De sorte qu'il y a un appel au plus intime de notre cœur de vivre du mystère de la messe avec elle, comme de recevoir l'Eucharistie avec elle, auprès d'elle. C'est la manière dont nous perdons le moins de temps et dont l'intensité de notre foi, de notre espérance et de notre amour va aller le plus loin, parce que Marie nous aide. Ajouter encore un dernier point. Tout à l'heure, quand je vous disais Marie complète l'état victimal de Jésus, je vous ai montré le point de vue de la foi. Mais nous pouvons dire la même chose du côté de l'espérance. Sponsabo in fide, sponsabo in misericordia. Alors ça, c'est le point de vue de l'espérance. C'est-à-dire Marie vit à la croix une espérance héroïque. Et c'est en ce sens-là qu'elle achève ce qui manque à la passion du Christ. Jésus a la vision béatifique. Il est donc au-delà, Jésus, durant toute sa vie terrestre, il est donc au-delà de tout ce que représente le point de vue de la foi et de l'espérance. Marie complète ce qui manque à la croix du Christ par l'offrande de son intelligence, parce qu'elle est dans la plénitude de foi, et elle offre aussi les désirs les plus fonciers de son cœur, les volontés les plus profondes de son cœur de mère. Et par là, elle achève et elle complète l'état victimal de Jésus du côté de sa volonté. Puisque la volonté du Christ est saisie profondément par la vision béatifique, il faut, pour que la nature humaine soit totalement offerte au Père, que non seulement ce soit l'intelligence, mais aussi les profondeurs de la volonté. Et les profondeurs de la volonté, c'est les désirs les plus profonds, les plus intimes de notre cœur. Marie offre tout cela à la croix, dans un héroïsme divin. Et nous devons nous-mêmes y tendre, dans la mesure où Dieu nous demande de vivre ce même mystère d'amour. Je crois que pour entrer profondément dans le mystère de la croix, c'est le mystère de la compassion. C'est le mystère de la compassion. Surtout pour nous, vous voyez, de façon très particulière. Je vous ai déjà dit, au moins certains, cette chose très curieuse que dit Nietzsche. Nietzsche dit qu'il y a deux choses insupportables dans l'Église chrétienne. La métaphysique de l'être et la compassion. Ça m'a toujours beaucoup étonné de voir ça, les deux choses liées comme ça. Très étonnant. Les deux choses les plus insupportables. La métaphysique de l'être, on comprend très bien que Nietzsche dit que la métaphysique de l'être, c'est la chose la plus insupportable qui soit, parce que pour lui, le point de vue de l'être, c'est le point de vue du mensonge, puisque c'est accepter qu'il y ait, au-delà du visible, un invisible. Donc, c'est la chose la plus insupportable. Il n'accepte pas une intelligence qui s'oriente vers la vérité, une intelligence contemplative. Il n'accepte pas une réalité qui existe avant sa créativité. Vous savez bien ce qu'il dit aussi quand il dit « Si Dieu existe, il est le créateur. » Or, je suis créateur, donc Dieu n'existe pas. Mais c'est très fort de voir cette impossibilité qu'il a d'accepter quelque chose existe avant. Cette difficulté de comprendre la métaphysique de l'être et la compassion, parce que la compassion implique une attitude affective toute relative à un autre. On compatit. On n'est pas celui qui agit. On est celui qui est dans un état de passivité. Il y a un état de passivité tout entier relatif à un autre. On comprend que c'est les deux choses qui s'opposent le plus à sa vision, à sa volonté de puissance. Je crois que ce sont les deux points, vous voyez, c'est pas pour répondre à Nietzsche, mais je crois que ce sont les deux points que la Providence, de fait, nous demande de vivre le plus. Une rectification profonde de notre intelligence pour donner notre intelligence au Christ. Autant que possible, il vaut mieux donner une intelligence qui n'est pas faussée. Il vaut mieux donner une intelligence qui est rectifiée, purifiée pour l'offrir à Jésus. Et c'est pour ça qu'on la rectifie, on la purifie par le point de vue de la philosophie. Et puis le mystère de Marie dans son mystère de compassion. Je crois que c'est les deux points sur lesquels nous devons être le plus attentifs. Parce que ça me semble être justement les objections les plus nettes et les plus rudes de notre époque d'aujourd'hui. Alors demandez à la Vierge Marie, durant tout ce mystère de l'Avent, avec le mystère de l'Immaculée Conception, demandez à Marie d'être très présente dans votre vie, qu'elle vous prenne, qu'elle vous cache, qu'elle vous offre, qu'elle vous nourrisse. Vous lui demandez ça très fort pendant tout ce temps de l'incarnation, pendant tout ce temps de l'Avent, où le mystère d'incarnation est tellement présent, tellement enfoui, mais présent, caché, mais présent. Alors il faut que nous avancions toujours plus avec une très grande joie dans le cœur. et Saint-Esprit, par l'intercession du cœur douloureux et immaculé de Marie, vous bénisse et vous garde à jamais. Amen.